Alors, je vous propose de commencer ce message par un résumé rapide de ce que l'on avait déjà vu les dernières fois. Je pense que lorsqu'on étudie un livre en entier, une série biblique, c'est important de voir la progression de la pensée de l'auteur, de voir la vision globale de ce que l'auteur veut nous dire. Et cela va aussi nous aider à mieux comprendre le passage d'aujourd'hui, passage qui n'est pas forcément évident dans tous les points. Donc Paul, en écrivant à cette église de Corinthe, savait très bien qu'elle allait être lue à haute voix dans l'église. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Personne n'avait chacun sa copie personnelle de l'épître, hein, parce que ce n'était pas des emails à l'époque, c'était des trucs où il fallait écrire à la main. Donc personne n'avait... Il y avait une épître et elle était lue dans l'église. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous que d'avoir une Bible. À l'époque, les gens, je pense, ils auraient bien aimé pouvoir avoir toute la parole de Dieu avec eux, Ancien Testament, Nouveau Testament, toute la parole de Dieu. Je pense que nous avons réellement un privilège d'avoir cette parole. Mais à l'époque, pour que tous puissent entendre ce que l'apôtre Paul avait à leur dire, ces épîtres étaient lues à haute voix dans l'Église. Paul le savait très bien, c'est avec cette perspective qu'il a écrit cette lettre. Quand les Corinthiens lisaient cette épître aux Corinthiens, leur épître, ils avaient encore le passage d'avant bien en tête, ce qui n'est pas forcément le cas pour nous, moi y compris, hein, je m'inclus dedans. Donc cette première épître aux Corinthiens avait commencé par une note positive, très encourageante. Paul était au courant des différents problèmes qu'il y avait dans l'église de Corinthe, mais c'est par une note positive qu'il avait décidé de commencer. Dès le verset 8, « Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Les Corinthiens vont persévérer dans la foi parce que Dieu est fidèle à son appel. » Dieu ne laissera pas les Corinthiens tomber. La fidélité des Corinthiens ne dépend pas d'eux. Dieu les affirmera, lui va les soutenir, lui littéralement sera leur appui jusqu'à la fin. L'un des problèmes de l'église de Corinthe, c'est l'orgueil. Chacun se croit meilleur que les autres. Et les conséquences de cette manière de penser, c'est une église divisée en groupuscules. On avait vu « Moi, je suis de l'apôtre Paul !» Moi, je suis de l'apôtre Pierre. Moi, je suis d'Apollos. Paul, Pierre, Apollos, c'est rien. Moi, je suis du Christ. Une église divisée. Et en gros, ce que l'apôtre Paul souhaite faire dans ses quatre premiers chapitres, c'est dénoncer cette tendance qu'ont les Corinthiens, et je pense que nous pouvons aussi également avoir cette tendance, malheureusement, c'est de mal placer notre orgueil. Et pour lutter contre cela, Paul va attirer l'attention, notre attention, celle des Corinthiens, sur Dieu, et en particulier sur ce Dieu qui se donne à la croix. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 13. « Paul a-t-il été crucifié pour vous ?»« Non. Alors ne mettez pas votre espoir en moi, mais mettez-le dans Jésus. » Verset 17 de ce premier chapitre. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Ne mettez pas votre espoir dans une rhétorique de discours, dans une science du langage. La croix est assez puissante en elle-même pour convaincre. Verset 18, « Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La sagesse de Dieu et sa puissance sont venues d'une manière qui réduit à néant toute sagesse humaine. Ne mettez pas votre espoir, votre orgueil dans la sagesse humaine, mais mettez-la dans la sagesse de Dieu. Et plus tard, l'apôtre Paul va nous dire que la sagesse de Dieu nous est révélée par le Saint-Esprit, par l'Esprit. L'Esprit nous donne la compréhension de la sagesse de Dieu. La mort d'un homme sur un morceau de bois qui, a priori, paraît comme un échec, comme une faiblesse, est en réalité le lieu même de la sagesse de Dieu. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit que Dieu nous donne, qui nous permet de comprendre la puissance du Christ crucifié. Et c'est dans ce contexte que se trouve le passage que nous allons étudier ce matin. Donc je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez. Donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2. Et nous commencerons à partir du verset 14 jusqu'au verset 3 du chapitre 3. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnel. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnel ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « moi Apollos », êtes-vous autre chose que des humains ? Nous arrêterons ici la lecture. Paul, dans ses versets, dans les versets 14 à 16 en particulier, nous dit qu'il y a deux types de personnes. L'homme naturel et l'homme spirituel. Alors, nous allons regarder à ces deux groupes, essayer de comprendre de qui il s'agit, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là. Donc tout d'abord, l'homme naturel, ou selon les traductions, l'homme animal. Mais je préfère naturel, ça fait quand même un peu mieux. L'homme naturel, c'est par définition celui qui n'est pas spirituel. L'homme naturel, c'est celui qui n'est qu'humain, c'est en fait celui qui n'est pas rempli par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas spirituel, c'est en fait celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Donc quand il parle de spirituel, il parle de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des hommes que Paul appellerait naturels qui, bien sûr, vont faire une certaine recherche, une certaine démarche spirituelle, hein, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Donc l'homme naturel, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il nous dit. Hein. L'homme naturel ne reçoit pas, il n'accueille pas les choses de l'Esprit. Il ne reconnaît pas la croix, il ne reconnaît pas la sagesse de Dieu. Il ne perçoit là que faiblesse et échec. La mort d'un homme sur un morceau de bois, rien de plus. Pourquoi n'accepte-t-il pas ces choses-là ? Ben Paul nous donne la réponse. Car elles sont une folie pour lui. Une folie. Ce n'est pas la première fois que Paul le dit d'ailleurs. Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. La croix, chapitre 1, verset 23, c'est scandale pour les juifs et folie pour les païens. Pour l'homme, dans sa nature, pour l'homme naturel, la crucifixion de Jésus sur la croix n'est que folie. Et c'est quand même compréhensible. Peut-être qu'en tant que chrétiens, avons-nous oublié à quel point la venue de Jésus et le déroulement de sa vie est chose choquante. Mais elle l'est réellement. Cette venue de Jésus est contraire à tout ce que l'on aurait pu imaginer. Moi-même, parfois, je me dis que c'est fou ce que je crois. Imaginez si Jésus n'était pas venu il y a 2000 ans, mais il était venu ces dernières années. Un jour, quelqu'un vient vous voir pour vous parler de Dieu, dit-il. Dieu est né il y a un peu plus de 30 ans, né à, Sochaux par exemple, au milieu de nulle part. Personne ne vient de Sochaux ? Non ? Ok, ça me rassure. Moi j'y suis allé, c'est pas mal en fait. Bon, c'est un peu au milieu de nulle part, mais bon. Voilà. Né à Sochaux, voilà, d'une vierge âgée de 15 ans. Et cet homme, que l'on dit être le fils de Dieu, qui s'appelle Jésus, on n'a pas vraiment entendu parler de lui pendant ces 30 dernières années, parce qu'en fait il était occupé à travailler, tout simplement. Mais il a vécu parfaitement, sans aucune faute. Mais ces dernières années, il est passé par toute la France. Il a fait beaucoup de miracles, des guérisons, il a même ramené quelqu'un à la vie. Mais bon, il devenait un peu gênant, alors les autorités, les structures religieuses, les structures politiques, associatives, etc., se sont arrangées pour le mettre à mort. Mais 3 jours après, il est revenu à la vie. Voilà. Si tu crois que Jésus est mort à ta place, alors tu es sauvé. L'évangile, oui, folie, si l'on compare aux valeurs de la société. En quoi la mort d'un inconnu mort il y a 2000 ans peut-elle avoir un impact sur ma vie ? Paul sait très bien que c'est l'Esprit, et lui seul, qui peut convaincre de la sagesse de Dieu à la croix. C'est l'Esprit qui peut convaincre. Si les hommes naturels ne croient pas, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ne veulent pas croire. Paul va plus loin, il dit que s'ils ne croient pas, c'est parce qu'ils ne le peuvent pas. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est par l'esprit. Si le Saint-Esprit ne nous fait pas comprendre la puissance de Dieu, alors nous ne pourrons pas la comprendre. Par nous-mêmes, sans l'Esprit, nous n'allons pas regarder à la croix comme moyen pour nous sauver. Nous sommes trop égoïstes, pas assez humbles pour reconnaître notre besoin de pardon. Sans l'Esprit, notre orgueil va toujours reprendre le dessus et nous aveugler. J'ai pas besoin d'être sauvé, moi. Pécheur. Non, attends, franchement, j'ai connu pire que moi. J'ai pas tué, j'ai pas volé, ou du moins, bon, rien de vraiment important, quoi. J'ai pas commis d'adultère. Oui, mais n'as-tu jamais regardé une femme autre que la tienne avec convoitise? Tu n'as jamais tué, d'accord, mais n'as-tu jamais détesté quelqu'un au point de vouloir le tuer? Ne serait-ce même que pendant une minute? C'est la réponse que donne Jésus dans le sermon sur la montagne. C'est un discours qu'il a donné. Si vous voulez le lire, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. En particulier, si vous ne pensez ne pas avoir besoin de pardon, moi je vous invite à lire Matthieu, chapitre 5. Nous avons tous besoin d'être pardonnés de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire taire notre orgueil et qui va nous convaincre de nos fautes et de notre besoin de pardon. Et qui va nous convaincre de la beauté de la croix. Sans l'Esprit, l'orgueil rend l'homme aveugle, l'homme naturel, l'homme spirituel maintenant. Quelle est la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel? Nous l'avons déjà un peu dit. Relisons juste le verset 23 et 24 du premier chapitre. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ça, c'est la réponse de l'homme naturel à la croix. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ça, c'est la réponse de l'homme rempli de l'Esprit. L'homme spirituel, c'est celui qui a l'Esprit qui agit en lui. C'est celui qui reconnaît dans la croix son salut. C'est celui qui comprend que c'est à la croix que se montre la sagesse et toute la puissance de Dieu. La différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel, c'est que Dieu a donné son Esprit au spirituel. Et alors, il peut juger ce qui concerne le salut, mais également ce qui concerne la vie, le bien, le mal, etc., parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Au-delà de son intelligence propre, il est nourri par l'Esprit de Dieu. Alors, je vous l'accorde, tous ces concepts ne sont pas faciles à comprendre. Pourquoi Dieu ne donne-t-il pas son Esprit à tout le monde? Pourquoi a-t-il décidé de le donner à certains et pas à d'autres? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Je pense que ces questions font partie de ce que l'apôtre Paul va parler dans quelques versets de la nourriture solide. Quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Ce n'est pas facile à comprendre. La Bible nous dit que tous les hommes sont égaux. Tous sont au même niveau devant Dieu. Mais en fait, le niveau, il est plutôt là. Tous ont besoin de pardon. Tous sont menteurs, tous sont égoïstes, tous sont criminels, etc. Personne ne mérite le pardon de Dieu. Personne. Tous, au contraire, mériteraient la punition de Dieu. Ceux à qui Dieu ne donne pas son esprit sont quand même coupables. C'est leur orgueil qui les rend aveugles. C'est ce même orgueil qui, moi, m'a aveuglé pendant des années, avant de comprendre ce qu'avait fait Christ pour moi à la croix. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu, dans son amour infini, en a choisi quelques-uns. Qui? Pourquoi a-t-on fait quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous n'avons rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Mais Dieu en a choisi quelques-uns. Et pour les sauver, il a envoyé Jésus sur la terre. Il a envoyé Jésus pour qu'il meure sur la croix, afin que ceux qu'il ait appelés ne meurent pas, que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils aient la vie éternelle. C'est ce Dieu qui se donne que nous avons adoré par le chant ce matin. Ce Dieu qui donne son Fils pour des brigands. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi, vous? Pourquoi m'a-t-il choisi, moi? Honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. Il me manque quelque chose pour comprendre. Mais je sais que je ne suis pas Dieu et je ne sais pas toute chose. Mais ce que je sais, c'est que Dieu attend une réponse de notre part. Si vous croyez déjà que Christ est mort pour vous, à votre place, alors je vous encourage à ne pas l'oublier, à toujours centrer vos regards et vos vies sur ce Jésus qui se donne à la croix. Il n'y a pas de meilleur remède contre l'orgueil que de regarder à Jésus sur la croix. Il y est mort à notre place. Il a réellement pris notre place. Si vous faites partie de ceux qui ne croient pas encore, je vous encourage à vous examiner vous-même. Moi, j'ai fait ça déjà il y a quelques années et je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi bien que ce que je pensais être, vraiment, et de loin. Je vous encourage à lire la Bible, ou du moins rien qu'une partie de la Bible, ce qu'on appelle un évangile. Il y a 4 livres dans la Bible qui parlent vraiment du récit de la vie de Jésus. Je vous invite à en lire un et je pense que vous serez surpris de voir comment ce qu'a fait Jésus à la croix répond exactement à notre besoin de pardon. Je vous encourage à regarder à Jésus, à essayer de comprendre ce qu'il a fait à la croix, parce que Christ est mort pour vous. Je vous encourage à l'accepter dans votre vie. Revenons à notre texte. Je vais relire les 3 premiers versets du chapitre 3. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas de manière toute humaine? Paul, il vient parler de 2 catégories de personnes, l'homme naturel et l'homme spirituel. Mais Paul sait bien que tout n'est pas blanc ou noir. L'homme spirituel n'est jamais complètement spirituel. Paul ne parle pas aux chrétiens de Corinthe comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Chaque Corinthien, du fait de son orgueil, se croyait meilleur que tous les autres. Mais Paul, d'une certaine manière, remet les pendules à l'heure. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il ne dit pas comme à des hommes naturels. C'est important de le noter. Il dit à des hommes charnels. Paul n'est pas en train de dire que les Corinthiens ne sont pas sauvés. Clairement, il les présente comme des frères dans la foi. C'était le cas dès le 2e verset de cet épître. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, donc rendus saints en Jésus-Christ. Verset 6 du 1er chapitre. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Paul présente les Corinthiens comme des frères dans la foi, comme des enfants en Christ. Les Corinthiens sont réellement en Christ. Alors, homme charnel, qu'est-ce que Paul veut dire par là? Être en Christ ne va pas nous rendre parfaits tout de suite. Croire en Dieu, se convertir, cela va avoir un impact sur notre comportement, sur notre manière de voir les choses, etc. C'est évident. Cependant, la conversion ne va pas nous rendre parfaits. Le changement, ça prend du temps. Devenir chrétien et pouvoir vivre en tant que chrétien, ce n'est pas comme du café instantané. De cuillerée, un peu d'eau chaude, on mélange et c'est bon. Non, ça prend du temps. Être chrétien, c'est une bataille. Dieu nous a donné son esprit, mais nous avons encore celui d'avant. Nous sommes sauvés, mais nous sommes encore pécheurs. Nous sommes encore sous l'influence du péché. Devenir chrétien, c'est quelque chose qui prend toute une vie. Et il nous faut acquérir une certaine maturité par rapport à la foi. Tout chrétien, dans sa vie, va grandir dans sa foi. Les Corinthiens, doivent mûrir et doivent consolider leur foi. Au niveau de la foi, les Corinthiens se croyaient super spirituels. Mais ils sont en réalité comme des enfants dans le Christ. Ils doivent encore grandir, mûrir, s'affermir. Être chrétien, ça s'inscrit dans la durée, c'est un combat. Mais ce combat, nous sommes sûrs de le gagner. Parce que lors de la conversion, il nous est dit que Dieu nous a donné son esprit. Dès la conversion, nous sommes réellement pleinement sauvés. Alors j'aimerais vous donner une image pour aider à comprendre cela. Alors je sais que j'ai déjà raconté cette histoire ici, mais c'était la première fois que je suis venu prêcher. Ça remonte maintenant peut-être 3 ans ou 4, donc je me dis, bon, je suis sûr que vous ne vous en souviendrez pas, donc je peux la redire. C'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est une histoire vraie, une histoire véridique. Nous sommes le 7 décembre 1941, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Winston Churchill, tu t'en souviens?
Non.
Bon. Il y en a qui s'en souviennent ou pas? Non. Bon, c'est bon, ça me rassure. Plus ou moins. Donc nous sommes en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Winston Churchill est dans son bureau. Et là, alors qu'il est dans son bureau, ses conseillers entrent pour lui apporter une mauvaise nouvelle. L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. L'armée japonaise est si puissante qu'elle se permet même d'aller attaquer les États-Unis. En une matinée d'attaque, elle inflige des dégâts considérables à l'armée américaine. 2500 morts, 1178 blessés et de nombreuses pertes matérielles. Quelle a été la réaction de Winston Churchill à cette nouvelle? Il alla se chercher un verre, se servit un grand verre de whisky, alluma son cigare et dit « Messieurs, nous venons de gagner la guerre. » Nous venons de gagner la guerre. Jusque-là, rien ne laissait penser que les troupes alliées allaient pouvoir gagner la guerre. Au contraire même, elles étaient plus ou moins en train de perdre sur tous les fronts. Mais ils savaient que ce bombardement à Pearl Harbor allait faire entrer les États-Unis en guerre. Et ils savaient que cette entrée en guerre des États-Unis, c'était le commencement de la fin pour les nazis. Les troupes allemandes étaient bien trop occupées sur le front russe. Avec l'engagement américain, les troupes de soldats alliés allaient au moins tripler. Churchill savait que ce n'était qu'une question de temps avant la défaite allemande. Les généraux allemands ont vite compris que c'était la fin pour eux. Mais cela ne les a pas empêchés de se battre. Il en est de même pour nous avec la conversion. Accepter Jésus dans sa vie, c'est comme l'arrivée des soldats américains lors de la Deuxième Guerre mondiale. La victoire est certaine. Mais en attendant l'heure effective de la victoire, le péché est encore à l'œuvre. C'est John Piper, un grand pasteur évangélique aux États-Unis, qui lui utilise une autre image. Il dit que lorsqu'on se convertit, c'est comme si le Saint-Esprit lâchait sur le péché la bombe de Nagasaki Hiroshima. Ce n'est qu'une question de temps avant la fin du péché. La victoire est certaine. Nos péchés sont réellement pardonnés. Réellement, nous le sommes. Mais l'adversaire agit encore. L'adversaire sait très bien que la défaite est proche et qu'elle est certaine. Mais il jette ses dernières forces dans la bataille. Mais la victoire est certaine pour nous avec Christ. Alors en attendant l'heure de la victoire, soyons vigilants. Regardons à Jésus sur la croix. Là est notre victoire. Regardons à la puissance atomique aussi du Saint-Esprit. Parce que dès que nous ne faisons pas attention, notre orgueil revient au galop. Et cet orgueil peut même revenir un peu déguisé d'une manière spirituelle. C'est ce qu'il a fait chez les Corinthiens. L'orgueil des Corinthiens, c'est dire « Nous, moi, je suis meilleur que les autres. » Les Corinthiens se croyaient très spirituels, plus spirituels que tous les autres. Mais ça, c'était leur orgueil qui leur faisait penser cela. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul sait que la foi des chrétiens avait besoin de plus de maturité. Les divisions dans l'église de Corinthe en étaient le signe principal. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Les Corinthiens doivent mûrir et doivent consolider leur foi. Paul leur parle comme à des enfants. Il leur donne du lait et non pas de la nourriture solide. Et c'est logique. C'est logique. Moi, il m'arrive de babysitter les deux petites de Carrie et Estelle. Je n'ose pas imaginer la réaction de Carrie et Estelle si je donnais à Luce un steak comme repas. Et débrouille-toi avec ta petite cuillère en plastique. Non, c'est pas possible. Alors, c'est hypothétique, j'ai jamais fait ça, je vous rassure. Luce ne peut pas manger un steak. Alors, on ne peut pas lui donner de la nourriture solide, dure à mâcher, c'est pas possible. Là, c'est exactement la même chose pour les Corinthiens. Ils sont comme des enfants en Christ. Il faut commencer par du lait. Il faut grandir dans la maturité chrétienne avant de pouvoir s'attaquer à la nourriture solide. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a des notions qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Il y a du lait dans la Bible, mais également de la nourriture solide. Paul donne du lait aux Corinthiens. Alors qu'est-ce que c'est le lait, à votre avis ? Pardon ? Les vérités sur le salut, exactement. Le lait, c'est la base même de l'évangile. L'amour de Dieu, Jésus qui se donne sur la croix, le pardon des péchés par le sacrifice de Jésus. Mais c'est également aussi l'apprentissage de l'humilité. L'humilité de mettre son espoir dans le Christ et non pas dans ses propres efforts. Les Corinthiens doivent revoir les bases. Ils doivent les comprendre ou du moins les assimiler pleinement. Paul ne dit pas que la nourriture solide, c'est pour des gens plus intelligents. Non, il ne dit pas ça. Mais c'est pour ceux qui ont une plus grande maturité spirituelle. Pour des gens avec plus d'humilité que les Corinthiens. Paul donne du lait aux Corinthiens. Tout ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens est valable pour nous également. Aujourd'hui, nous devons nous aussi être sur nos gardes. Peut-être nous croyons-nous très spirituels, mais faisons attention de ne pas nous enorgueillir de notre spiritualité. En se croyant spirituel, il y a un risque important. Le risque de se voir plus beau que ce que nous sommes réellement. Le risque de plus regarder à notre pratique religieuse plutôt qu'à Christ sur la croix. Plus on se croit spirituel et plus on a besoin de se recentrer sur Christ. Quand bien même nous allons à l'église tous les dimanches, que nous lisons notre Bible tous les jours, que nous allons à toutes les réunions de prière, que nous allons au trio, que nous lisons tout, nous avons lu tous les livres chrétiens qui sont là-bas à la bibliothèque, eh bien nous avons quand même pleinement et toujours besoin de Christ. Ne pensons pas que notre pratique spirituelle, notre pratique religieuse, peut d'une certaine manière nous justifier devant Dieu, parce que ce n'est pas le cas. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à la victoire de Jésus à la croix. Et ce n'est en aucun cas grâce à nos efforts. Nous pourrions être très spirituels, avoir une pratique religieuse impressionnante. Si nous ne mettons pas notre espoir en l'œuvre de Jésus à la croix, alors nous ne serons pas trouvés justes au jour de la victoire. Ne brûlons pas les étapes. Ne nous croyons pas meilleurs que les autres. L'orgueil revient rapidement à la charge. Comme les Corinthiens, je crois que moi j'ai fait partie pendant un temps de ces orgueilleux de la pratique religieuse. De certaine manière, je me justifiais devant Dieu par ma pratique religieuse. Mais le Saint-Esprit a agi en moi par sa puissance nucléaire. Et il m'a montré mon orgueil. Sans Christ, je n'étais rien. Ma pratique religieuse ne pouvait en aucun cas me justifier devant Dieu. Je ne pouvais rien faire pour être sauvé. Ma pratique religieuse ne pouvait en aucun cas me sauver. Je ne pouvais rien faire. Mais Dieu, lui, a fait quelque chose pour moi. Il a fait quelque chose pour nous, pour vous. Il a envoyé son Fils mourir sur la terre pour des orgueilleux comme moi. En mourant sur la croix, Jésus a porté le poids de mon orgueil et de tous mes autres péchés également. Moi, je remercie le Seigneur de nous avoir donné sa Bible, sa parole, pour nous enseigner. Je le remercie qu'il nous a donné son Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous enseigne. Et je remercie le Seigneur qui nous a aussi donné d'autres chrétiens pour pouvoir partager et pour pouvoir, par ces partages, en apprendre plus sur Jésus. Je prie que Dieu nous préserve de notre orgueil et qu'il nous permette de centrer nos vies sur ce Jésus qui se donne à la croix. Amen.